15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Santé et Bien-être, une émission que nous avons baptisée Sans Rendez-vous, parce que chez nous, pas besoin de réserver une place, la porte est ouverte, vous venez quand vous voulez. Tous les jours, nous répondons à vos interrogations, idées reçues, petits bobos, grands dossiers, questions sexo. Sans Rendez-vous, l'émission dans laquelle vous allez tout comprendre et surtout où nous allons parler de tous les sujets sans tabou, c'est sur Europe 1. Il est à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré au massage, une émission bien-être donc pour bien commencer la semaine avec notre invité, le masseur kinésithérapeute Nicolas Bertrand. On va vous donner un aperçu de cette discipline aux innombrables vertus et même vous apprendre les rudiments de base du pétrissage, du palpé roulé qu'on peut tous mettre en pratique à la maison pour se faire du bien à soi ou à ses proches. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler des soins de support dans le post-cancer qui devrait bientôt être remboursé par l'assurance maladie. Ensuite, dans notre chronique Les bobos du quotidien, on va parler de l'anémie. Le plus souvent, elle est provoquée par une carence en fer, mais pas seulement. On fera le point sur ce problème qui provoque une grande fatigue. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question des craintes, voire des objectifs parfois inatteignables que se fixent certaines jeunes femmes pour leur premier rapport sexuel.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et donc tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on écoute la première, c'est celle de Maxime qui nous a appelé de Prades dans les Pyrénées-Orientales. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Voilà, je suis tombé sur un article sur internet sur les bienfaits pour le cœur du brossage de dents et notamment pour les infarctus. Donc j'aurais aimé savoir si c'était des bêtises ou si c'était réel et qu'on se portait mieux au niveau du cœur en se brossant bien les dents. Merci à vous, bonne journée.
Alors Jimmy, c'est vrai qu'on sait que le tabac ou l'obésité c'est mauvais pour le cœur, mais ce qu'on sait moins c'est qu'une une mauvaise hygiène dentaire en fait, ça compte aussi beaucoup.
Et oui exactement, alors que c'est pas forcément évident le lien entre santé bucco-dentaire et problème, mais sauf qu'il y a un lien qui est très clair et qui est établi, c'est le lien entre un problème dentaire, des bactéries et une infection cardiaque, et notamment l'endocardite. Si vous avez une mauvaise santé bucco-dentaire et des bactéries dans les dents, vous pouvez développer du coup cette infection qu'on appelle l'endocardite.
Alors justement, dites-nous en un petit peu plus, c'est quoi l'endocardite?
Alors,
précisément,
c'est une infection sévère des valves du cœur causée par le plus souvent une bactérie. Mmh. Et cette bactérie, si elle n'est pas traitée, elle est responsable malgré tout de 20 à 25% de mortalité.
Ah oui.
Lorsqu'on est hospitalisé. Et dans un cas sur deux, elle est responsable de complications neurologiques et cardiaques. Au premier lieu, l'insuffisance cardiaque qui va tuer le patient.
Sérieux, hein.
Et au deuxième lieu, un AVC d'origine septique, c'est-à-dire qu'on va créer une embole, c'est-à-dire un caillot de bactéries au niveau du cerveau, qui peut être aussi responsable du coup d'AVC et de mortalité, tout ça à cause de dents.
Mais vous êtes sérieux, ces endocardites, elles sont vraiment provoquées par des bactéries qui viennent juste de notre bouche?
Oui, elles sont causées essentiellement par deux types de bactéries, les streptocoques et les staphylocoques. Et dans 30% des cas, elles sont à l'origine de streptocoques, on dit oraux, qui sont dans la cavité buccale. Et donc, si vous avez des dents non traitées, mal soignées, cette bactérie peut contaminer des valves du cœur. Sous réserve
oui, parce
que
qu'en
ces
fait,
valves...
les dents pas soignées, ça fait des blessures, ça fait du sang et après ça va dans le système sanguin général.
Exactement.
En fait, c'est ça.
Et cette bactérie va se développer sur un cœur qui est déjà malade, fragilisé. Mmh. C'est-à-dire lorsqu'on a une insuffisance cardiaque avec une valvulopathie, lorsqu'on a une valve mécanique. C'est pour ça que tout porteur de valve mécanique, eh ben, dès qu'il a de la fièvre, on lui dit de consulter. Souvent, on les met sous antibiotiques. Mmh. Donc, ce n'est pas tout le monde qui fera ce genre de pathologie, mais néanmoins, il faut être très prudent.
Et donc, pour prendre soin de son cœur, la morale, c'est qu'il faut prendre soin aussi de ses dents.
Oui, on a tendance à négliger les soins bucco-dentaires. Il ne faut pas attendre d'avoir une carie pour consulter. Allez voir votre dentiste tous les ans, ne serait-ce que pour un contrôle. Et on sait que 50% des Français qui ont une gingivite ne vont pas consulter et que par la suite, ces gingivites ou toutes ces maladies parodontales vont être responsables d'une augmentation du risque de maladies cardiovasculaires. Et même, on avait reçu le professeur Amouyel, qui est spécialiste de la maladie d'Alzheimer, et qui nous disait que les études montraient un lien possible entre maladie d'Alzheimer et bactéries dans la bouche.
Bon, une bonne raison de se brosser bien les dents.
Hein.
C'est clair. Merci beaucoup, Jimmy. On va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est Ben, 39 ans, à l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Je viens de tomber sur un article de presse qui m'a fait juste un peu bondir. J'ai lu que la rougeole pouvait nous donner, à nous, adultes, un système immunitaire de nourrisson. Je trouve ça juste hallucinant qu'il nous fragilise autant. Donc ma question était, est-ce que ce virus est aussi puissant que ça? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? Merci beaucoup.
Alors c'est vrai, Jimmy, il y a une étude publiée il y a peu, là, à nouveau, hein, sur la gravité potentielle de la rougeole, qui a montré précisément que cette infection, elle provoquait des choses assez dingues sur notre système immunitaire. Racontez-nous.
Oui, c'est fou. C'est une étude qui a été publiée dans un prestigieux journal. C'est pas dans Mickey Magazine, c'est dans un truc qui s'appelle Science. Et ils ont analysé le sang d'enfants qui avaient justement eu cette rougeole, le sang de 77 enfants. Et grâce à un outil qu'ils ont appelé le VIRSCAN, ça a permis d'identifier tous les virus qu'un enfant avait pu attraper, que ce soit la grippe, une varicelle, un virus d'herpès. Et donc, en gros, ça scannait toutes les anciennes infections qu'un enfant avait pu attraper.
Et donc, ces chercheurs, ils ont regardé la mémoire immunitaire, entre guillemets, globale de ces petits-enfants après la rougeole, et ils ont vu quoi?
Ils ont vu que dès qu'on a une infection, on fabrique des anticorps qui permettent de ne plus tomber malade. C'est pour ça qu'on ne fait plus trop de rhume, d'angine lorsqu'on grandit. On s'est rendu compte que chez les enfants qui avaient eu la rougeole, la rougeole détruisait jusqu'à 73% des anticorps protecteurs des autres maladies. Ce qui veut donc dire que toutes les infections qu'on a eues par le passé et puis contre lesquelles on devait être immunisé, le fait d'avoir la rougeole remet les compteurs à zéro. Et ce qui veut donc dire qu'on va retomber malade. Donc au-delà des complications de la rougeole, ça entraîne un problème de défense immunitaire. Bref, il faut vous vacciner, c'est le seul moyen de se prévenir de cette maladie.
Merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, comme Ben qu'on vient d'entendre, voulez nous laisser vos questions santé au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas, nous y répondrons au plus vite. Europe 1. Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler des soins de support dans le post-cancer qui seront bientôt remboursés. Et puis, on accueillera aussi notre invité du jour, le masseur kinésithérapeute Nicolas Bertrand, avec qui on va vous faire du bien, promis, puisqu'on va parler massage. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, Nicolas Bertrand, masseur kiné avec qui on va tout vous dire sur l'art du massage, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui Jimmy, vous nous parlez de la création d'un forfait de soins post-cancer remboursé par la Sécu, qui est donc prévu dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale qui a été adopté par les députés. Mais pourquoi un forfait une fois le traitement du cancer terminé? Expliquez-nous.
Et bien parce qu'une fois qu'un cancer a été traité, et ben les traitements et les soins ne s'arrêtent pas. On sait que c'est une enquête qui a été menée par la Ligue contre le cancer. 8 patients sur 10 disent qu'ils présentent encore des séquelles physiques et psychologiques 5 ans après la fin d'un traitement. L'idée de ce texte de loi, c'est donc de mieux accompagner les malades en facilitant ce qu'on appelle l'accès aux soins de support, c'est-à-dire tout ce qui aura été entraîné par des chimiothérapies, des radiothérapies, une chirurgie parfois un peu compliquée.
Le soin des séquelles, la remise en forme, etc. C'est quoi les axes qui seront concernés dans ce forfait, justement?
Alors, il y en a 3 principaux. Le premier, c'est le soutien psychologique. Ensuite, vient le suivi nutritionnel et l'activité physique adaptée. On sait aujourd'hui, de façon formelle, que si on fait correctement ses soins, eh ben, ça améliore la qualité de vie des patients, mais aussi ça réduit le risque de récidive.
Oui, c'est
donc
ça,
il y a un intérêt de santé publique d'accompagner ses patients.
C'est vrai, par exemple, si on prend l'aspect soutien psychologique, suivi chez le psychologue régulier, en plus, ça peut revenir cher, parce que ce n'est pas toujours remboursé.
Eh bien oui, parce que d'autant plus qu'après une chimiothérapie, un cancer, une longue maladie, on a souvent des symptômes d'anxiété, d'angoisse, parfois une vraie dépression qui s'installe. Et on estime que près de la moitié des patients qui ont ressenti le besoin d'un soutien psychologique n'en ont jamais bénéficié, principalement pour des raisons financières. Et lorsque vous êtes hospitalisé dans le parcours de soins, vous avez accès à des psychologues, à un psychiatre, parce que vous êtes
à l'hôpital. Tant qu'on est
à l'hôpital,
qu'on est
exactement.
Soigné,
mais
ça
dès
va
lors
à
que
peu
vous
près,
sortez,
ouais.
Que vous devez avoir un suivi en ville, s'il faut débourser à chaque fois 50 euros pour voir une psychologue, parce qu'elle ne vole pas son argent, mais
bien
il y aurait
sûr,
besoin de la payer.
Mmh.
Mais s'il faut 50 euros toutes les semaines,
voire plus,
pendant plusieurs mois,
plus
ça peut être compliqué, d'où l'intérêt de ce forfait.
Du coup, tout est réglé, là, c'est bon, tout va être pris en charge.
Eh bien non, parce que pour l'instant, le décret, en attendant le décret d'application, c'est un peu flou, c'est voire un peu décevant. On dit que, là, on parlait du suivi psychologique. On parle de consultation de suivi psychologique et nutritionnel, mais on ne sait pas combien, ni pendant combien de temps. Même chose pour le bilan d'activité physique. On ne parle pas de l'activité physique en tant que telle, juste d'un bilan. Donc on vous dira, écoutez, vous devez faire du sport et ce sport-là, mais on ne le prendra pas en charge. Enfin, on prévoit 10 millions d'euros, donc ça paraît énorme, mais on sait que ça va toucher, ça bénéficier peut-être à 3 millions de malades.
Ah oui,
donc je laisse faire le calcul,
ouais.
10 millions d'euros, 3 millions de malades, ça fait à peine 3 euros. Même si un tiers des malades en bénéficient, ça fera 10 euros par malade. Bref, on est loin du compte et l'institut, enfin la Ligue contre le cancer dit qu'il faudrait 10 fois plus.
Alors, en attendant, quelles sont les solutions pour les patients qui ont besoin de ces soins ?
Alors, se renseigner dans l'établissement où on est suivi, demander un avis à son médecin traitant. Il existe des associations, et je vous donne le nom d'un site qui s'appelle lavieautour.fr, qui recense tous les soins de support qui peuvent être faits, suivi psychologique, beauté, les troubles sexuels qu'on a après une chimiothérapie. Donc voilà, lavieautour.fr, et vous aurez plein d'informations.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour toutes ces précisions. Et à présent, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour, c'est Nicolas Bertrand, masseur kinésithérapeute et ostéopathe. Il est aussi l'auteur de l'encyclopédie du massage publiée chez Flammarion.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour Nicolas Bertrand.
Bonjour Mélanie, merci de me recevoir.
Avec plaisir. Le massage, c'est quelque chose qu'on aime tous, enfin quasiment tous. Moi, je connais quand même peu de gens qui n'aiment pas ça. Ça nous procure du plaisir, du tonus, ça peut même nous déstresser. Mais le massage, d'abord, j'ai découvert ça dans votre livre. Il a parfois influé sur le cours de l'histoire, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Racontez-nous.
Ah, vous avez aimé cette histoire de... qui a été racontée très bien par Joseph Kessel dans Les mains du miracle, qui raconte effectivement que Himmler, qui avait énormément de problèmes physiques et notamment des maux de ventre absolument incroyables, a fait appel à Félix Kersten, qui était un masseur gourou et qui l'a aidé justement dans ses troubles, à régler ses troubles. Et en contrepartie, ce masseur gourou a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il a monnayé ses soins. Et il a permis en fait de sauver des milliers de personnes, notamment de la déportation.
Belle histoire, effectivement, Jimmy.
Le massage, on sait que c'est vieux comme le monde, mais finalement, j'ai même appris que ça datait du temps des pharaons. Les pharaons déjà pratiquaient le massage.
Oui, c'est vrai. On a retrouvé effectivement des signes et même des hiéroglyphes racontant les massages. Je crois près de Saqqara, près des pyramides de Saqqara, dans une tombe. Mais c'est même un peu plus ancien parce que je crois qu'il y a 5000 ans. On a déjà des premiers écrits sur le massage, notamment en Inde, avec le massage ayurvédique.
Alors par contre, dans votre livre, vous annoncez la couleur tout de suite. On passe au concret là. Apprendre le massage, ça s'apprend et ça demande un peu d'entraînement. On s'improvise pas masseur comme ça quand même.
C'est sûr, oui, c'est sûr. Ça demande des années d'entraînement, des années de répétition de gestes. Et puis, comme je le dis aussi, en fait, il faut on en reparlera tout à l'heure, pour bien apprendre à masser, il faut se faire masser assez régulièrement.
Combien de temps ça prend de devenir masseur et pas juste pousseur de crème comme ça?
Ouais, c'est très difficile à dire. C'est vraiment... c'est plusieurs années en tout cas de pratique.
Alors Nicolas Bertrand, on va poursuivre cette discussion dans quelques minutes, vous restez avec nous. Dans un instant, on passe donc à la pratique, on va vous donner quelques rudiments de base pour apprendre à bien masser. On vous dira aussi quelles sont les conditions pour un massage réussi, quelle crème ou quelle huile utiliser. Mais d'abord, on se relaxe, on se détend avec un peu de musique, on écoute Morceau d'amour de Marc Lavoine.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Vous êtes tous les bienvenus. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, Nicolas Bertrand, masseur kinésithérapeute et ostéopathe, avec qui nous parlons aujourd'hui de massage. Alors, une des premières choses que vous dites dans votre livre, et vous l'avez déjà dit tout à l'heure, un bon masseur doit être bien massé, c'est ça? Pourquoi?
Oui, complètement. Mais en fait, c'est une accumulation d'expérience. Il faut à la fois emmagasiner de l'expérience, savoir ce qu'on va ressentir, et puis pour bien faire ressentir à la personne ce qu'on a ressenti, transmettre, il faut avoir reçu.
Mais je veux dire à mon mari, masse-moi beaucoup, comme ça peut-être plus tard je te masserai si tu m'as bien massé, c'est ça?
Je pense que c'est une bonne idée, mais rappelez-vous que c'est un échange quand même.
D'accord, il faudra vraiment que je masse à un moment donné. Vous dites aussi que dès qu'on touche un corps, qu'on masse un corps, quelle que soit finalement la technique qu'on utilise, il y a une multitude de réactions chimiques qui se passent dans notre organisme, de quel genre?
Alors, ça agit surtout sur ce qu'on appelle le système neurovégétatif. Le système neurovégétatif, c'est un système complètement enfoui en nous qui régule un certain nombre de fonctions. Et le fait de toucher, ça stimule. C'est une des façons de rentrer dans ce système et de le stimuler.
On sécrète des hormones, des choses.
On sécrète des hormones, on relâche son système musculaire, on s'apaise, le système cardiovasculaire
se
ralentit, se calme. Enfin, énormément de choses qui se produisent au niveau de ce système.
Et quelle que soit la technique, il faut choisir aussi le bon moment pour masser. C'est plutôt le matin ou le soir qu'il faut qu'on le fasse?
Alors moi, si c'est un massage relaxant, puisqu'on est en train de parler de ça surtout, je pense que c'est plutôt en fin de journée. C'est-à-dire après une bonne journée, on a accumulé quand même pas mal de tension, pas mal de stress. Et vraiment, le soir, c'est quand même le bon moment.
Sauf si on veut un massage très tonique qui vise à nous réveiller.
Si vous voulez faire du sport, c'est sûr que vous n'allez pas faire tout à fait le même massage que...
Plutôt le matin.
C'est plutôt le matin ou plutôt avant l'activité physique. C'est-à-dire qu'il faut donner une indication. En fait, le massage, c'est une indication à ce qui va se passer. si vous faites un massage qui est tonique, vous incitez votre corps à se réveiller. Vous lui dites, allez, on y va. Si vous donnez plutôt un massage qui est lent, eh bien là, vous allez plutôt rentrer dans une phase de relaxation, de détente. Mmh.
Le massage, il a aussi, je l'ai lu dans votre livre, des vertus assez dingues sur la peau. Je ne savais pas qu'il y avait autant de bénéfices sur la qualité même de notre peau. Ça provoque quoi, par exemple, si on se masse le visage,
ça stimule, hein, ça stimule toutes les cellules. Donc, en fait, la réponse en fait, à ces stimuli, ça va être une réponse qui va être cutanée, mais qui va être aussi, en fait, sur toutes les petites fibres qui composent la peau. Et ça va donc permettre d'améliorer tous ces petits systèmes d'échange, puisqu'en fait, il s'agit d'améliorer les échanges, notamment dans le massage.
Parce qu'il y a une circulation sanguine aussi.
Il y a une micro-circulation. Voilà. Alors, dans la peau du visage, par exemple, puisque vous montrez votre visage, dans la peau du visage, effectivement, il y a une micro-circulation qui est plus importante. La peau est très, très fine. On rougit facilement, par exemple, au niveau du visage. Voilà, donc effectivement, on peut interagir de façon très, très précise.
Il y a un effet rajeunissant aussi, parce que je crois qu'il y a un effet sur la production de collagène, notamment, qui
exactement,
nous rend plus jeunes. Plus on a de collagène, plus on a de peau jeune.
C'est cette même stimulation. C'est-à-dire plus vous allez stimuler les fibres, plus vous allez avoir une réaction importante.
Jimmy ?
Et apparemment, il faudrait aussi faire des automassages. Donc, il faudrait se masser le visage tout seul. Donc, comment est-ce qu'on fait ?
Alors, par exemple, on peut prendre un exemple très simple. Hein. On peut parler des poches sous les yeux, si vous voulez.
Ah oui. Jimmy, oui. Ouais, non,
moi, j'ai pas de poches.
Il y a des cernes, mais pas de
poches. Et pour les auditeurs qui n'ont pas la chance d'avoir mon visage, oui, allons-y.
Il y a quelques poches, cernes. Alors, les
cernes, les poches sous les yeux, comment on fait ?
Non, c'est pas pour vous, Jimmy, hein, c'est pas.
Non, c'est bien.
Par exemple, on va mettre ses doigts là, de chaque côté des ailes du nez, et puis tout doucement, on va essayer d'étirer ses doigts vers l'extérieur en direction des oreilles. On répète plusieurs fois.
Je suis en train de le faire aussi. Hein.
Ce mouvement.
On dirait Jimmy si j'ai moins de poches sous les yeux après. Donc on fait ça comme ça, juste on tire, c'est tout. C'est pas vraiment. C'est pas très compliqué. Hein.
Non, c'est pas très compliqué. Mmh. En fait, ça permet d'évacuer tout ce surplus liquidien qu'il y a sous les yeux parce qu'en fait, c'est du liquide.
Ah, mais c'est pareil que j'ai du rimmel partout, monsieur mon réalisateur. Non, c'est pour ça. Et je fais ça combien de fois par contre ? Je suis en train de me tirer
vraiment,
la peau sous
fait,
les yeux. Mais...
L'idée, c'est. Alors, pas trop fort. Hein. Faut
ah
pas
oui,
le faire trop fort.
Moi, je voulais vraiment enlever les poches.
Vous dites aveugle, la Mélanie, attention là.
Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, on doit vraiment ressentir une sensation de relâchement. Même au niveau cutané, on sent cette sensation de relâchement. Et puis, ça amène même une sensation sur la fatigue. Ça a tendance à défatiguer un petit peu.
Moi, je suis en pleine forme. Ouais. Alors, ça, je ne m'en rends pas compte de toute façon. Mais ouais. Jimmy, c'est mieux là ?
Il y a encore un peu de travail, Mélanie.
Ah, bon, je remasserai tout à l'heure. Alors, c'est bon. Mais ça a un effet aussi jeunesse, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai lu que Grace Kelly se faisait des automassages du visage comme ça pour avoir l'air plus en forme, moins fatiguée sur les tournages. En se faisant des automassages du visage, alors pas que sous les yeux, mais on peut rajeunir sa peau un peu, c'est ça ?
Ben en fait, vous savez que les rides et les rides d'expression, notamment hein, telles qu'on les connaît, sont liées à la fatigue.
C'est-à-dire là, si je masse, ça va partir les rides parce que
c'est une accumulation. Mais ça va pas partir au sens littéral du terme, mais effectivement, ça va améliorer en fait la circulation et cette micro-circulation.
Jimmy ?
Alors, il y a beaucoup de choses qui circulent, notamment sur la cellulite. Mais est-ce qu'on peut améliorer les problèmes de cellulite avec un massage ? Et si oui, quel massage ?
Il veut tout savoir, il a des poches sous les yeux et de la cellulite, Jimmy, on vient de l'apprendre.
Oui,
bon, la cellulite, c'est plutôt quelque chose de féminin, mais bon, effectivement... Vous avez
c'est pas votre faute, Jimmy.
C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent.
En fait, qu'est-ce que c'est que la cellulite ? C'est l'augmentation des adipocytes. Les adipocytes, c'est les petites cellules graisseuses qui augmentent de volume. Mm-hmm. Elles peuvent prendre jusqu'à 1000 fois leur taille initiale. Ces petites cellules, elles sont emprisonnées dans des cloisons, elles sont cloisonnées, elles habitent un petit appartement, si vous voulez. Et puis en grossissant, elles vont pousser les murs de cet appartement et ça va faire s'effondrer le plafond.
Et donc le massage, il fait quoi dessus ?
Le massage, qu'est-ce qu'il fait ? Il stimule ces adipocytes, il va permettre en fait de les vider un petit peu. Et on sait, par une traction particulière, notamment par le palpé roulé, qui est une technique assez connue dans le massage de la cellulite, on va pouvoir interagir sur ces petites cellules, sur ces petits adipocytes, et leur permettre en fait de s'évacuer.
Et là, ce sont des massages quand même assez profonds hein, pour la cellulite, c'est ça ?
C'est un massage où on prend vraiment le pli cutané, c'est-à-dire qu'on va attraper avec ses doigts.
Ça fait mal même, je crois, ces massages-là.
Oui, ça peut être un petit peu sensible. Donc,
on paraît que ça fait plus maigrir d'ailleurs le masseur que le massé, ce type de massage anti-cellulite.
Alors, si c'est bien
tellement
fait, oui, ça arrive. Ouais. Ouais,
effectivement.
Ça arrive.
Alors Nicolas Bertrand, on va continuer cette discussion dans 3 minutes, vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on vous apprend quelques rudiments de massage, quelles techniques de base pour vous faire du bien ou faire du bien à vos proches, car on peut même se masser en famille, les enfants, les bébés adorent les massages, ça les relaxe, ça crée du lien et ça soulage même certaines douleurs. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité Nicolas Bertrand, masseur kinésithérapeute et ostéopathe. Alors il nous dit tout aujourd'hui sur l'art des massages. Alors justement, on va passer à la pratique, hein, ça y est, on est tous prêts, moi comprise, à devenir des apprentis masseurs. Imaginons, je voudrais masser mon mari ce soir, imaginons, hein, bien sûr. Est-ce qu'il y a des conditions à réunir? Est-ce que je l'installe quelque part? C'est quoi les conditions idéales pour bien masser?
Alors il va falloir préparer l'environnement déjà. Hein.
Alors je le masse.
Dans quel environnement vous allez le masser? Alors, déjà au calme, c'est très important. Vous allez débrancher votre téléphone portable.
Une fois que les enfants sont couchés.
Les deux téléphones portables, c'est très important. Vous allez plutôt faire ça au sol. Vous allez bien l'installer, pas sur quelque chose de dur. Hein. Vous pouvez mettre un petit matelas ou
petit tapis de yoga,
tapis de yoga. Vous allez surélever un petit peu ses jambes. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre une serviette. Ça, c'est une astuce pas mal. Prenez une serviette que vous roulez et puis vous faites un fer à cheval avec cette serviette. Ça vous permet de positionner la tête, de poser la tête.
Comme dans un trou un peu, en fait.
Comme dans un trou, exactement. Et puis, pourquoi pas, vous mettez une petite ambiance bougie avec un peu de chauffage quand même, parce que la température du corps va...
C'est vrai qu'on a toujours froid quand on commence à se faire masser au début. Pourquoi ?
Ça, c'est lié au fait qu'on va relâcher la tension musculaire. Et cette tension musculaire, elle permet d'avoir une sorte de chaleur interne. Et donc, cette chaleur va baisser. Ça agit effectivement aussi, comme tout à l'heure, sur le système neurovégétatif.
Bon, je mettrai du chauffage, promis. Jimmy.
Bon, on est prêt, ça y est. Moi, je suis prêt à devenir un apprenti masseur. Alors, il faudrait commencer par quelle zone du corps ? Le dos, c'est pas mal pour commencer?
Le dos, c'est pas mal parce que c'est une zone en fait très très étendue. Donc on peut tester pas mal de techniques sur le dos. On peut commencer par exemple par une technique d'effleurage. C'est pas mal ça, la technique d'effleurage. C'est une technique très simple qui permet en fait de prendre la mesure de ce que vous allez trouver chez votre mari, là, en l'occurrence.
Jimmy, ce sera sa femme, mais
peu importe.
Comment il effleure? Alors c'est quoi l'effleurage?
L'effleurage, c'est vraiment une pression très 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 douce et ça permet de reconnaître en fait, de faire le tour en fait du dos par exemple et de faire le contour.
C'est
et
comme
de
une caresse un peu juste.
C'est comme une caresse, voilà. C'est une pression très faible et ça permet de savoir s'il y a des tensions musculaires. Vous allez repérer un certain nombre de choses. Est-ce qu'il y a des douleurs? Est-ce qu'il y a de la chaleur?
On passe ses doigts comme ça un peu partout.
Exactement.
Pas la paume de la main, juste le bout des doigts, c'est ça?
Non, c'est plutôt une manœuvre globale. C'est-à-dire vous allez mettre la main complètement à plat.
D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des zones du corps ou du visage? Là, Jimmy veut commencer par le dos, parce que c'est grand, c'est facile, on se dit, bon, le dos, c'est le premier truc. Mais est-ce qu'il y a des zones du corps ou du visage qu'il ne faut pas du tout masser, par contre?
Oui, en fait, il y a des zones sur lesquelles il faut faire attention. On pense aux zones génitales, la poitrine, évidemment. Il y a aussi des zones à l'arrière du genou, qui ne sont pas terribles, qui sont hypervascularisées. Et puis, l'aine aussi, qu'il ne faut pas trop.
Bon, pour les débutants, on n'y va pas sur ces zones-là, d'accord. On prend de la crème ou de l'huile pour commencer?
Alors, on peut prendre les deux. Moi, je préconise pour commencer de prendre de la crème, parce que déjà, ça coule moins. Il faut éviter de la mettre directement sur la peau. Mettez-la dans le creux de votre main. Ça permet déjà de la réchauffer. Et puis, c'est moins pour la personne qui reçoit en fait, le massage. C'est pas quelque chose qui coule et c'est moins désagréable.
En la mettant dans la main, ça va la chauffer un petit peu aussi, non?
Oui, ça va la chauffer, vous allez pouvoir l'étaler. Ouais. Et puis, vous allez pouvoir aussi déterminer la quantité de crème que vous allez mettre au départ. Et puis, progressivement, il vaut mieux rajouter de la crème plutôt que d'en mettre une grosse quantité et puis ensuite l'étaler.
On a bien effleuré le dos, là, tout le contour, avec le bras, la main à plat, tout doucement, comme des caresses. On passe à quoi après? Je crois qu'il y a une technique que vous appelez le pression glissé. C'est quoi?
C'est la pression glissée. La pression glissée. C'est-à-dire qu'en fait, là, on va appuyer un petit peu plus fortement et on va essayer de s'arrêter sur des zones qui sont un peu plus tendues. On va essayer, là, de voir sur quoi on va pouvoir agir. On va aller un petit peu plus en profondeur. On va passer sous le système cutané, sur le système musculaire. On va sentir différentes choses. Cette pression, elle est plus profonde que l'effleurage.
Jimmy ?
Et la technique du modelage, c'est plutôt pour le visage, mais qu'est-ce que c'est ?
Alors, la technique du modelage, c'est une technique très, très douce.
Parce que le modelage, en général, on dit que c'est le nom d'un massage dans un institut de beauté, mais le modelage, c'est une technique aussi de manuel.
Le modelage, ça a été utilisé par les instituts de beauté pour éviter d'utiliser le terme massage.
D'accord. Mais le modelage dont
Jimmy parle, en fait, c'est une technique très, très simple, ce qui se fait avec le bout des doigts, en fait, pour justement éviter d'aller trop en profondeur dans les muscles du visage sur la peau du visage, parce que c'est une zone très très sensible.
Donc on tapote, c'est ça? Comme si on tapotait à l'époque, on avait un clavier, un téléphone.
Aussi le tapotage, oui. Qui s'appelle plus exactement le pianotage. Comme si on jouait du piano. En fait, on a essayé d'imager dans ce livre maximum de de techniques, donc le pianotage, le modelage, le décordage.
Il y a une heure de vidéo d'ailleurs dans le livre, hein, pour ceux qui veulent voir, parce qu'on n'apprend jamais mieux que quand on voit, hein, c'est vrai.
C'est vrai qu'avoir un petit retour visuel, c'est pas mal.
Pas mal. Et donc, dans votre livre, vous apprenez que ces gestes-là, on a parlé de l'effleurage, de la pression glissée, du modelage, c'est des enchaînements souvent quand on masse. On ne fait pas un seul mouvement, on en fait plusieurs.
Non.
Et voilà, ces enchaînements, ce n'est pas toujours les mêmes gestes, en fait. Hein, c'est
en
ça
fait, il faut apprendre, il faut choisir une technique, essayer cette technique et ensuite passer à autre chose. Et puis, dans la réalité, ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on enchaîne ces techniques. Et puis, en fonction de ce qu'on perçoit, de ce qu'on ressent, on va changer de technique en disant celle-là, celle est plus adaptée que l'autre pour tel type de problème.
Vous parlez dans votre livre de techniques un peu plus spectaculaires, comme celle des percussions.
Boum,
en gros,
boum,
on fait
boum,
du tam-tam, c'est ça, sur le dos ou ailleurs.
On en
voit toujours
avec les mains comme ça. Ça a l'air d'un peu.
Alors, visuellement, c'est hyper impressionnant.
Hein, c'est vraiment agréable, ça, se faire taper, là.
On se rappelle de certains films où on voit effectivement ces techniques de percussion. C'est des techniques qui nous viennent plutôt d'Asie. Ça a été utilisé notamment aussi en Angleterre, pour les problèmes respiratoires. Je ne sais pas si vous vous souvenez en fait, de ce qu'on appelait le clapping, c'est-à-dire on tapotait en fait, sur les enfants.
Ça se fait encore, hein, je crois qu'on a la bronchiolite. Avec... Ouais.
Alors maintenant, on est passé plus à une respiration, à une augmentation de la respiration pour les enfants, à une accélération du flux expiratoire, plus exactement. Mais c'était une technique effectivement qui était à visée désencombrante.
Donc on tapote.
On tapotait, on obtenait une réaction réflexe.
Avec les poings fermés ou les mains à plat d'ailleurs? Comment on fait la percussion?
Il y a trois façons de le faire. On peut le faire soit main à plat, soit les poings fermés, mais en fait en tapotant, c'est
comme sur un tambour, on rebondit en fait.
Exactement,
hein, plutôt
on rebondit sur la peau. Et on peut aussi le faire avec les deux mains, en coupe comme ça, en les superposant l'une à l'autre et puis en se tapotant.
Et
en général, on obtient un bruit qui est assez sympathique, qui est assez spectaculaire. On voit ça aussi dans le hama. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'est le hama. Le hama, c'est un massage assis. On voit beaucoup dans les entreprises.
Ah oui, d'accord. On en voit dans les aéroports aussi, non?
On en voit dans les aéroports. On est sur une chaise et on utilise en fait ces méthodes de percussion.
Et ça se fait quoi, ça? Ça procure quoi?
Eh bien, ça provoque en fait une action réflexe. C'est-à-dire qu'en percutant, on agit sur certains points réflexes et on va avoir une stimulation et une réponse par rapport à ces réflexes.
Et ça détend plutôt ou ça tonifie?
Ça peut agir sur la détente, mais ça peut aussi agir sur des méridiens. C'est pareil, hein, on est toujours en Asie, sur des zones énergétiques. Donc, on peut agir sur les méridiens du foie, du cœur, etc., en fonction de ce qu'on veut obtenir.
Alors, dans votre livre, il y a, c'est un peu comme un livre de cuisine, en fait. Il y a des fiches techniques, comme ça, avec toutes les techniques qu'on peut apprendre. Il y en a quand même, comme la traction, qui font un peu flipper, moi, je trouve. Parce qu'on tire, là, j'ai l'impression que je vais désarticuler la personne que je vais masser.
Alors c'est pareil.
Ça fait un peu peur quand on est débutant, quand même.
C'est imagé. En fait, plutôt que traction, on aurait pu mettre mise en tension. Mais mise en tension,
c'est tirer un peu le bras.
Oui, c'est ça. On tracte légèrement, en fait, de façon à ce qu'on appelle décoapter, c'est-à-dire à créer un petit espace entre l'articulation.
On fait craquer.
Le craquement, en fait, ça veut strictement rien dire. Le craquement, c'est ce que c'est un petit dégagement d'azote.
Ça n'a aucune importance.
Mais il n'y a pas un risque, par exemple, avec ce genre de technique, là, de traction, quand on n'est pas un professionnel, finalement, d'entraîner, je ne sais pas, des lésions, notamment au niveau du cou. Imaginez, on essaye de faire ça.
Ça
peut être un peu hasardeux.
Bon, c'est là où il faut vraiment être très, très, très à l'écoute de ce qu'on fait et de la personne qu'on masse. Comme je le dis, il faut quand même prévenir la personne au départ des intentions qu'on a. Et effectivement, il ne faut pas s'improviser professionnel de santé. On ne va pas régler des problèmes de torticolis par le massage, on ne va pas régler des problèmes de maux de tête, même si ça arrive.
Les migraines, vous en parlez dans votre livre. Grâce au massage, on se masse comment, par exemple? Expliquez-nous pour soulager une petite migraine, on va dire.
Alors, bon, les migraines, elles peuvent être dues à plein de choses. Donc là, on va parler, par exemple, des problèmes de tension musculaire qui sont trop importantes. Donc on peut, par exemple, se masser les tempes. Juste à la racine des cheveux, là, vous mettez vos doigts de chaque côté. Alors, pour ceux qui conduisent, ce n'est pas évident, mais avec vos deux mains, vous tournez très, très légèrement. Vous faites des petits mouvements circulatoires en deux rotations.
Pendant combien de temps?
Le temps aussi que vous obteniez une sorte de relâchement de détente. Donc, vous faites ça une quinzaine de fois. Ensuite, vous changez. Vous pouvez changer de zone. Vous pouvez venir un petit peu plus sur le front.
Et vous dites qu'on peut faire du bien aussi à sa famille, à ses bébés notamment. Les bébés adorent les massages. On peut les soulager de plein de maux, par exemple, lesquels?
On connaît tous les petits problèmes digestifs que rencontrent les bébés. Donc, masser le ventre, ça peut être une bonne idée.
Dans le sens des aiguilles d'une montre, comme on nous l'a conseillé toujours.
Non, mais ça, c'est une bonne idée de le faire dans le sens des aiguilles d'une montre. Hein. C'est exactement comme ça que se fait la digestion. Donc effectivement, ça aide beaucoup, beaucoup les enfants. Mais une main à plat, par exemple, et puis progressivement, on appuie, on presse tout doucement, en faisant un petit mouvement circulaire dans le sens des aiguilles d'une montre, effectivement.
Et on retrouve la technique dans votre livre. Merci beaucoup, Nicolas Bertrand, d'être venu sur notre plateau. Grâce à vous, on en connaît plus. On connaît quelques rudiments de base pour se lancer, tous dans le massage. Et sinon, pour en savoir plus, il y a votre livre, évidemment, l'encyclopédie du massage, publié chez Flammarion. Merci encore.
Merci à vous.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique « Les bobos du quotidien ». Et aujourd'hui, on s'est intéressé à l'anémie. Alors, de quoi s'agit-il précisément? Est-elle toujours provoquée par une carence en fer? A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les bobos du quotidien. Aujourd'hui, on parle de l'anémie. Alors de quoi s'agit-il précisément? Est-elle toujours provoquée par une carence en fer? Comment ça se traite? Notre reporter Benjamin Lévesque a été vous poser ces questions. Je vous propose d'écouter son micro-trottoir.
L'anémie, c'est quand on manque de globules blancs, donc de défense immunitaire.
C'est quand on manque de certains sels minéraux, de certains oligo-éléments dans le sang. Dans le corps.
Ah, c'est se sentir un peu faible.
C'est peut-être plus un manque de fer.
Ça provoque une fatigue, une grande fatigue.
La personne a pas bonne mine, elle est toute blanche, un zombie.
Ça peut être chronique, ça peut être temporaire.
La nourriture qui est peut-être pas assez riche dans certaines choses, ou peut-être sinon un dérèglement de l'organisme.
Ça peut s'expliquer sur certains jours où on est plus en forme que d'autres, et où effectivement on peut avoir vraiment une baisse de tension ou de régime, ou qui fait qu'on aurait presque envie de coucouner.
Les gens qui sont peut-être en surmenage, qui du coup ont peut-être besoin d'un peu plus de défense immunitaire ou de fer pour lutter justement contre la fatigue.
Prendre du fer, du tartiféron notamment.
Il y a des aliments qui sont plus riches en fer que d'autres. Le meilleur exemple, c'est le boudin.
Manger des épinards.
Alors le boudin, les épinards, on va en parler, Jimmy, on va voir si c'est bon ou pas. Mais d'abord, on va reprendre quand même un tout petit peu à la base. Souffrir d'anémie, ça veut dire quoi? Il se passe quoi dans notre sang, concrètement?
Eh bien, quand on est en anémie, c'est qu'on manque d'hémoglobine. L'hémoglobine,
donc c'est pas les globules blancs, comme
non,
le disait le premier.
Exactement.
C'est les rouges, là,
exactement,
plutôt, non?
Exactement, les globules rouges, justement. Et l'hémoglobine, c'est ce qui est composé, c'est dans les globules rouges qu'on a l'hémoglobine, et ça sert à transporter l'oxygène vers le sang. Et donc, ce taux varie en fonction de l'âge. Un enfant n'aura pas les mêmes valeurs qu'un adulte.
Valeurs
et
normales,
un homme
c'est pas les mêmes, ouais.
N'aura pas les mêmes valeurs que celui d'une femme. Et donc, lors d'une prise de sang, on se rend compte que vous manquez d'hémoglobine et que, dans ce moment-là, vous êtes anémié lorsque ce taux est trop bas.
Par rapport à la norme de votre âge et de votre sexe. Alors d'accord, là-dessus, on est d'accord. Mais le plus souvent, quand on est anémié, c'est parce qu'on manque de fer, hein, ça c'est vrai.
C'est la principale cause en Europe et dans le monde. C'est plus d'un milliard et demi de personnes qui en souffrent. Et donc, quand on manque de fer, ça peut être lié à plusieurs choses. Soit parce qu'on n'en mange pas assez, soit parce qu'on en consomme beaucoup. Et c'est le cas notamment des femmes enceintes au troisième trimestre
c'est
de grossesse.
C'est vrai, moi on avait prescrit en supplément. Hein,
c'est le moment où on constitue les réserves en fer du bébé. Et donc forcément, pour constituer les réserves en fer du bébé, on pompe dans celui de la maman. Mais on a aussi des maladies inflammatoires. Lorsqu'il y a une inflammation chronique, on consomme plus de fer et donc on peut avoir l'anémie. Mais il n'y a pas que ça. On peut aussi être carencé en vitamine B12, en vitamine B9. Il y a plein de causes d'anémie. Et puis, il y a une cause qui est souvent négligée par les femmes, c'est lorsqu'elles ont beaucoup des règles très abondantes. Et même lorsqu'elles pensent que leurs règles ne sont pas abondantes, elles peuvent être anémiées parce qu'elles ont une mauvaise perception de leur cycle. Elles pensent que c'est normal. Or, elles perdent beaucoup de sang. Et là, à ce moment-là, l'anémie s'installe.
Alors, comment on sait qu'on souffre d'anémie? C'est vrai que dès que quelqu'un est pâle et un peu fatigué, on lui dit oulala, tu es peut-être anémie, attention. Est-ce qu'en réalité, il y a d'autres symptômes ou c'est ça?
Oui, la pâleur arrive, mais souvent d'une façon tardive, lorsque votre hémoglobine est vraiment basse. Mais vous avez d'autres symptômes. Effectivement, la fatigue, mais ça, c'est propre à chacun. Mais on peut aussi avoir des ongles un peu cassants, des cheveux de moins bonne qualité, un essoufflement, des palpitations, des vertiges, une sensation d'épuisement et puis une tendance aux infections. Lorsque vous êtes anémié, vous êtes un peu plus fragile, donc vous tombez tout le temps malade. Donc l'essentiel, c'est de faire une prise de sang qui permet de faire le diagnostic en 30 secondes et puis surtout d'orienter vers une explication, parce que c'est bien beau de savoir qu'on est anémié, mais on a parlé de la carence en fer, mais ça peut être autre chose. D'autres types de carences qui peuvent être responsables de l'anémie.
Donc la prise de sang, ça suffit. En deux temps, trois mouvements, on sait si on est vraiment anémié ou pas. Hein.
Exactement. Une numération formule sanguine, une prise de sang lors d'un contrôle classique, on a le résultat dans la journée et vous savez ce qui se passe. Et puis ensuite, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. Et puis souvent, on donne un traitement complémentaire avec du fer. Attention, le fer, lorsqu'il est donné, peut donner des symptômes digestifs, ça peut donner mal au ventre.
Et ça fait le caca noir.
Exactement,
aussi.
Ça colore les selles en noir. Elles sont noires, elles sont moches.
C'est pas grave.
Mais il faut prévenir parce que parfois les patients sont très inquiets. Et puis on le donne aussi chez les enfants. Les enfants peuvent être aussi incommodés par le traitement en fer. Et souvent, on propose de le mélanger au lait et pas donner le fer directement pour qu'il soit mieux absorbé et qu'il évite de donner des effets secondaires.
Et puis quand c'est une maladie qui provoque, on soigne la maladie. Mais c'est
un
autre sujet. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour tous ces conseils.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo. Aujourd'hui avec notre sexologue Catherine Blanc, il sera question des craintes de certaines jeunes femmes avant leur premier rapport sexuel. Attendre désespérément le prince charmant est-il une bonne idée? On verra ça. Restez sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Alors, aujourd'hui, vous allez répondre à la question que nous a posée Marion, 25 ans.
Bah,
j'espère bien, alors je vous la dis. J'ai 25 ans, Catherine, et n'ai pas encore fait l'amour. Je sais que la première fois est très importante, donc je préfère attendre le moment idéal avec l'homme idéal. Ma petite sœur, qui a 19 ans et n'est plus vierge, elle, me dit que j'ai tout simplement peur. Elle a raison, mais j'ai surtout peur que ce ne soit pas parfait, que je ne sois pas à la hauteur. Je fais une erreur, vous pensez? Alors d'accord, Catherine, on va quand même répondre. Juste avant de répondre précisément à Marion, elle dit qu'elle attend l'homme idéal. Mais vous, vous devez savoir, j'en suis sûre, vous avez la réponse. Le prince charmant, ça n'existe pas. Vous, vous le savez, j'en suis sûre.
Il est déjà repeint en face de
Je savais qu'elle allait faire une blague vaseuse. Non, il n'existe pas, Catherine.
Eh bien,
elle l'attend, mais
le prince charmant. Pourquoi? Parce que vous avez peur que ce ne soit pas le vôtre. Non. C'est compliqué parce que le prince charmant, comme c'est un mélange de tous nos fantasmes, de tous nos désirs et qu'ils sont eux-mêmes assez versatiles, autant vous dire que le prince charmant n'est jamais assez charmant. Il est trop charmant, trop gentil, trop doux, pas assez doux.
Puis s'il est trop charmant, toutes les autres le trouvent charmant aussi,
voilà,
donc on a peur de se faire piquer.
Exactement. En fait, il a toujours toutes les qualités et les défauts de ses qualités, donc il n'est jamais assez charmant selon l'humeur qui est le nôtre. Mmh. Donc rencontrons plutôt le réel et faisons avec le réel de l'autre. Alors, c'est peut-être la meilleure des surprises.
Le réel, c'est que Marion, donc, elle a 25 ans. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont encore vierges à cet âge-là, 25 ans?
Oui, plus encore. Et là n'est pas un problème, si ce n'est que justement à vouloir être parfaite, plus le temps passe, plus l'idée de la perfection les hante, puisque évidemment elles grandissent, elles mûrissent, elles gagnent en notoriété sociale. Et tout d'un coup, ça fait un décalage entre une débutante et une femme qui est plus aboutie sur d'autres sujets.
Jimmy ?
Et est-ce qu'on peut la rassurer en disant que la première fois, forcément, ne sera pas extraordinaire ou comme elle l'attendait ?
Oui, je crois qu'elle a l'air de le savoir quand même, puisque tout le monde autour d'elle le dit.
Même mais sa petite sœur, apparemment, 19 ans, qui elle n'est plus vierge, je lui dis « mais t'as peur !»
Voilà, non, alors je pense que là, il y a en plus un sujet
petite
de fratrie.
Petite querelle de
sœur. Voilà, il y a un petit sujet de fratrie en disant « Nakener, je suis passée devant toi, et oui, mais moi, je veux être parfaite, toi, tu l'as vu approximative, etc. » Donc, il y a des conflits relationnels, effectivement, de fratrie qui se jouent certainement là-dedans. Et oui, une première fois, vous avez raison, Jimmy, une première fois n'est qu'une première fois, c'est-à-dire un démarrage. D'ailleurs, si elle était parfaite la première fois, on n'y reviendrait jamais. Donc, c'est parce que justement, il faut pouvoir progresser que nous remontons en selle et nous réessayons et nous découvrons de nouvelles choses. Et c'est cela qui est intéressant dans la vie. C'est pas d'être arrivé, c'est de cheminer.
Mais ça, l'âge, à la limite, elle a 25 ans, on s'en fiche un peu de l'âge, vous l'avez dit, mais de toute façon, elle n'a pas l'air de s'inquiéter de ce qu'en pensent les autres. Mais vous pensez qu'elle a peur de quoi en réalité, Marion? Parce qu'elle dit qu'elle a peur, mais elle ne sait pas de quoi de cette première fois.
Alors peut-être que sa posture d'aînée lui met une pression et peut-être que se rejoue à l'occasion du sujet de la sexualité, de la pression sur l'aînée qui doit être grande, qui doit être aboutie, quand la petite peut être imparfaite, peut être en chemin et en vrac parce que la grande surveille. Et peut-être que cette pression qu'elle s'est mise depuis qu'elle est petite sur tous les sujets se rejoue dans le sujet de la sexualité où elle a peur d'être une désespérément débutante. Mmh. Et puis aussi, sans doute se joue aussi le fait qu'elle a dû ouvrir les portes en tant qu'aînée et que ça fait peur d'ouvrir les portes. Et sur un sujet aussi intime que celui-là, tout d'un coup, elle fait un pas de côté.
Jimmy ?
J'ai l'impression que les hommes se posent un petit peu moins de questions lors du premier rapport. Ils n'attendent pas forcément la femme de leur vie ou la femme idéale. Est-ce que justement c'est un truc de femme, justement, que d'attendre l'homme idéal, le prince charmant ?
Oui, sans doute beaucoup plus en effet, parce que les hommes se mettent en route pour faire la démonstration de leur capacité quand les femmes, même si c'est bien sûr de leur capacité dont il s'agit, elles vont devoir accueillir à l'intérieur d'elles. Donc elles ne veulent pas n'importe qui à l'intérieur d'elles.
Oui.
Tandis qu'un homme, il rentre, il sort, si ce n'était pas la bonne porte, bah, il va aller voir la porte d'à côté. Tandis que pour une femme, il y a vraiment une idée que quelqu'un va rentrer en elle. Quelque chose de l'autre va rentrer en elle et même y déposer quelque chose, même si ce n'est pas du sperme.
S'il y a, par ni exemple, une grossesse à tous les coups.
Parce qu'il y aurait un préservatif, par exemple. Mais il y a l'empreinte de l'autre en soi, dans un lieu qu'elle-même ne visite pas. Donc vous voyez, ce n'est pas tout à fait pareil qu'un extérieur dont on se dit, allez, on va se laver les mains, on n'a plus la trace de l'autre. C'est tout à fait différent.
Qu'est-ce que vous conseillez du coup à Marion de continuer à attendre l'homme idéal ou de se lancer finalement avec le premier venu, comme ça c'est fait et puis...
Alors, ni l'un ni l'autre. autre, je pense que...
J'ai des mauvais conseils. Surtout, faites pas ce que je dis.
Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que je vais ni lui conseiller d'attendre tranquillement l'homme idéal, puisque l'homme idéal, encore une fois, ne sera que dans son idéalisation à elle, et donc aussi changeante que ses propres fantasmes, donc c'est peu probable qu'elle le rencontre, et ni non plus de se jeter sur le premier qui ne va faire que corroborer l'idée qu'il y a...
Non,
donc c'est plutôt déjà d'apaiser l'idée que de sa peur du passage à l'acte, tout simplement, et de se mettre en paix en se disant qu'elle part à l'aventure pour elle-même et elle rencontrera le compagnon de route.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils précieux. Comme toujours, on vous retrouve bien sûr demain, dans notre grand dossier du jour, on va faire la chasse aux poils. On vous dira tout sur l'épilation définitive, comment ça marche et peut-on vraiment éliminer tous les poils grâce au laser.